Nous sommes toujours avec Stéphane Dill, nous sommes dans le patio du Sonambule à Gignac. Il fait beau, on est bien, c'est très agréable. Et on est un petit peu en train de dégrainer la programmation à venir de cette nouvelle saison du Sonambule. On parlait justement du lycée. Là, on va parler des tout-petits avec le nouveau rendez-vous, ça s'appelle les parenthèses. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors les parenthèses, c'est une continuation d'un travail qu'on a débuté il y a déjà, ça doit être 2016-2017, sur les petits dimanches et le petit festival. C'est-à-dire qu'on avait la volonté de s'adresser vraiment aux plus petits, les 0-3 ans, et donc à leur famille, et d'imaginer des moments, des rendez-vous ponctuels pour que ce public très spécifique puisse rencontrer l'artistique, l'éveil artistique des tout-petits. Ça fait longtemps qu'on réfléchit, qu'on travaille avec des professionnels de la petite enfance. Et depuis un an, je crois, on avait souhaité que les ateliers d'éveil soient enfin en gratuité. Donc là, on travaille pour essayer, nous, d'avoir un partenariat avec la CAF, voilà, pour continuer à proposer ces moments qui sont vraiment des moments intimes et de rencontres artistiques famille-enfant. Et donc là, on a décidé cette année de les rebaptiser, les parenthèses, et d'avoir un rendez-vous mensuel sur ce moment particulier d'éveil artistique des tout-petits. Donc il y aura effectivement un dimanche par mois, un rendez-vous à 10h, un rendez-vous à 11h, avec l'artiste associé à ces parenthèses, qui est Mario de la Combe, notamment de la compagnie Lugana, mais qui est plutôt très, très connu, reconnu dans le spectacle Petite Enfance, à l'adresse de la petite enfance sur le territoire. Voilà, donc on est très content d'inaugurer cette session de plusieurs dates tout au long de l'année, une fois par mois.
Et alors ça me permet de faire une petite parenthèse, c'est OK, vous gérez un lieu culturel, mais pas que en fait, parce que comme vous venez de le dire, il faut aller chercher des financements pour proposer des choses plus abordables aux gens, pour donner la culture à tous.
Alors oui, clairement, pour nous en tout cas, on a toujours un vrai travail de pédagogie, et c'est chouette parce que c'est comme ça qu'on se rencontre avec les gens, pour expliquer ce qu'on fait, qui on est, comment ça fonctionne. Ça peut paraître nébuleux ou on peut s'en ficher un peu, et je peux le comprendre. En tout cas, au-delà d'une consommation de produits artistiques, pour essayer d'être le plus caricatural possible, effectivement, ici, on mène un projet culturel. Et je n'ai rien contre la consommation de produits artistiques, mais l'entertainment complètement, et il n'y a aucun souci là-dessus plus que ça. Après, on pourrait faire une émission là-dessus si vous le voulez, ce sera avec plaisir, mais en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, nous, ce qu'on mène, c'est un projet culturel, c'est-à-dire que on gère de l'argent public, 70% grosso modo de notre budget est nourri d'aide publique, donc on se doit, on a une mission de service au public. J'estime qu'on est une association para-institutionnelle. Et donc, de par ce fait, on se doit d'avoir une attention particulière à l'accès le plus facilité pour le plus grand nombre à notre proposition artistique. C'est un challenge, parce que ça veut dire aussi que tous nos coûts, et en tout cas nos propositions d'offres payantes, doivent être le plus ajustées possible pour éviter qu'on se mette trop en danger et qu'on explose et qu'on soit plus là, et en même temps pouvoir subvenir un peu à nos besoins et être le plus accessible à chacun. Donc c'est un vrai travail de tous les jours, de réflexion. À chaque fois qu'on met quelque chose en place, on se dit bon, pour qui, comment on va chercher, quel partenariat on fait avec des structures sociales. On n'est pas expert dans tout. Donc on essaye, on a vraiment une façon d'envisager les choses très coopérative, je dirais, de façon à ce que chacun, avec ses spécificités, ses compétences, puisse participer, ce que je disais tout à l'heure, au projet, de façon à ce que chacun puisse en prendre un petit bout et profiter de ce projet culturel.
Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, ça permet les rencontres et ça permet de générer les idées.
Exact. Oui, tout à fait. Je pense qu'un cerveau, c'est pas très intéressant d'avoir, par exemple, une programmation qui naît d'un seul cerveau. Moi, je travaille vraiment en collaboration et avec l'équipe salariée et avec un programmateur et avec d'autres programmateurs pour élaborer une programmation qui raconte quelque chose et qui soit ancrée ici. Si je travaillais ailleurs à Montpellier, je ne ferais pas du tout la même programmation, parce qu'en fait, c'est lié au territoire sur lequel on s'inscrit. C'est ça qui est passionnant. Voilà.
Et alors tout ça, ça permet de proposer plein de choses. On en parlait tout à l'heure, des rendez-vous pour les tout-petits, les parenthèses. Vous allez proposer un vinyle market avec de nombreux disqueurs, une soirée swing et puis un nouveau festival de musique trans et tribale. Parlez-nous-en un petit peu de ce festival.
Ah, alors, tout à fait. Alors là, on se projette directement sur avril 2026, qui sera un peu le dernier concert ou moment artistique de la saison. Suite à plusieurs rencontres qu'on a eues déjà artistiques autour des musiques traditionnelles, bien sûr, des musiques du monde, et puis de rencontres artistiques, notamment avec Miloun, qui est du territoire, qui est handpaniste, qui est DJ, enfin voilà. On s'est imaginé pouvoir mettre en place un festival, un moment en tout cas sur plusieurs jours, autour des musiques de trance, qu'elles soient acoustiques, ou électronique, c'est oui. Pas forcément...
C'est pas que des DJ qui font ça.
C'est pas que des DJ, il y a vraiment de l'instrument, et même si le DJ peut être un instrumentiste à un endroit, ce n'est pas juste des passeurs de disques, forcément, ou de morceaux, voilà. Mais là, l'idée, c'était vraiment de mettre un éclairage sur la musique de trance. Et la musique de trance, en tout cas, on a souhaité l'imaginer, encore une fois, avec le panel qu'elle peut couvrir, c'est-à-dire pouvoir s'adresser à des bébés, quand vous voyez des bébés et que vous avez des musiques où on se dit « c'est pas pour eux, c'est juste, c'est pas que c'est pas pour eux, c'est que c'est le niveau sonore où il faut faire très attention aux oreilles des enfants », c'est juste ça, après qu'on leur mette de la musique tribale, trans, ethno, ce qu'on veut, techno, il n'y a aucun souci, c'est juste le contexte et faire attention à leur spécificité. Donc l'idée là, c'était d'imaginer encore une fois un moment festival qui puisse répondre aux attentes de chacun pour rencontrer ou redécouvrir ou profiter de cette musique ethno-trans. Donc on s'est appuyé là, en tout cas, sur beaucoup de groupes régionaux, avec une ou deux petites têtes d'affiche, mais pour l'instant, nos moyens sont encore limités. Donc l'idée, c'est de lancer cette première, puis de voir comment ça répondra pour la suite.
Et puis ça permettra de découvrir des cultures, parce que comme vous avez dit, il y a ethno là-dedans, et ça permettra aux gens qui ne connaissaient pas certaines cultures, notamment, je pense là tout de suite à la culture africaine, de le découvrir.
Oui, oui. Encore une fois, mais c'est vrai que ça ne va pas forcément de soi. Pour moi, un projet culturel, en tout cas celui qu'on mène ici, la base, une des bases, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais c'est s'assurer aussi d'avoir accès à une diversité culturelle, une diversité de propositions, et la diversité culturelle, elle est vaste, elle est géographique, elle est d'identification, de singularité, qu'elle soit raciale, peu importe en fait d'où elle est cette diversité, l'important c'est de veiller à avoir cette pluralité, et donc voilà, c'est aussi une manière de répondre à ça, comme cette année on a inauguré aussi un comedy club. Le premier là du pays cœur d'Hérault, on en est très fiers, il a été complet en 15 jours. Même si c'est pas ma mission, pour moi c'est important parce qu'il y a il y a de la demande. Ben, je pense qu'on se doit aussi de répondre à cette demande-là. Et c'est aussi des gens qui seraient peut-être pas venus voir de la musique, mais ils sont là, dans ce lieu. Du coup, ils vont être en contact avec de la diversité. Et pour moi, ben voilà, peut-être on réussit quelque chose en faisant ça.
Et puis pour finir, on va parler de ce qui se profile à l'horizon et qui c'est un petit peu aussi le cœur d'exercice du Sonambule, des nouveaux studios de répétition. Ça, c'est pas rien quand même dans une vallée, un peu à côté, mais en même temps loin de Montpellier. C'est pas rien pour des artistes, ça.
Clairement, on avait identifié, on savait déjà qu'il y avait des besoins. On l'a identifié grâce à une belle étude du collectif RPM, qui est on va dire, un réseau pédagogique musical national, et l'école de musique. On avait vraiment repéré ce besoin sur le pays cœur d'Hérault, en tout cas. Et depuis 2018, peut-être, on travaille à ce projet-là. Donc je suis très, très, très content de voir arriver enfin au printemps 2026. Voilà, normalement, la première pierre devait être déposée en décembre de cette année. Nos premiers studios de répétition, donc ça y est, on est dans la concrétisation. Deux studios de répétition, dont un, le plus grand, qui sera relié à une cabine d'enregistrement. Je ne peux pas parler de studio d'enregistrement, mais l'important, c'est de mettre une première pierre, hein, Et donc là, on aura la chance de pouvoir avoir ces deux studios et cette cabine d'enregistrement. On est en train de travailler au fonctionnement, au partenariat, puisque c'est quand même l'école de musique et donc la communauté de communes qui porte l'investissement de ces studios. Et merci à eux de pouvoir répondre à cette demande-là, qui est aussi pour eux, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour l'école de musique, ils ont besoin d'espace. Mais en même temps, on a pu faire en sorte que ces studios arrivent ici, sur le parking du Sonambule, s'installer ici, et que nous, on puisse aussi profiter de créneaux où l'école de musique ne sera pas, n'aura pas de nécessité, pour pouvoir l'ouvrir justement aux groupes locaux, aux artistes locaux, pour qu'ils puissent s'emparer un peu de ces équipements et pouvoir avancer dans leur projet. Et bien entendu, nous, on est là aussi en support d'accompagnement à la création, qu'elle soit professionnalisante ou amateur. L'idée, c'est de pouvoir être là en ressources, aux besoins, sur demande, et pour pouvoir calibrer un peu un accompagnement sur mesure en fonction des nécessités.
Et on peut dire qu'avec ça, la boucle est bouclée, parce que ça va venir nourrir votre programmation aussi. C'est un beau challenge.
C'est un beau challenge, et c'est peut-être, j'espère, bien pensé, et pas qu'un seul cerveau. Effectivement, on a quelque chose qui semble, en tout cas, cohérent, du repérage, de l'aide à la création artistique, du soutien à la création artistique, donc à la diversité, jusqu'au repérage, à l'accompagnement, à la résidence, à la diffusion. Voilà. Et du coup, de là, on a aussi toute l'ouverture sur les actions culturelles où les artistes, on a aussi un vrai travail qui se voit moins, où on envoie les artistes dans les écoles, où on propose des stages d'initiation, de découverte, de masterclass, peu importe les niveaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de cohérent et d'imaginer la vie des personnes comme un parcours artistique auquel nous, on essaye de répondre comme ressource pour pouvoir accompagner au mieux l'émancipation culturelle de chacun ou chacune. Voilà.
Eh ben merci beaucoup Stéphane Dill. Je rappelle que vous êtes le directeur du Sonambule. J'invite tous les Montpelliérains qui ne connaîtraient pas ou qui connaissent déjà à vous rendre sur le site du Sonambule. On tape Sonambule dans Google, on vous trouve tout de suite, et à découvrir ce magnifique lieu et cette belle saison qui se profile. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.